De Julie Harel, dont on s'ennuie, et ça me rappelle des souvenirs.
Et nous, en studio, on a eu droit à l'animation d'Hélène.
Ben oui.
Je faisais du lip-sync.
Émission diffusée en vidéo description.
C'est à cause de vous, ce Serge Bradet, oui, qui nous parlait des Dames Drapeau, une dynastie de seigneuresses par Dave Noël en lien avec Kamouraska.
Avec Kamouraska. Anne Hébert a écrit le roman.
Oui.
Et un film qui a été fait avec Geneviève Bujold.
Bujot.
Ouais. Ben, je trouve, mais elle est Bujot.
Les années 70, hein, le film, je me souviens d'avoir.
De Claude Jutras, je pense.
Je pense que oui.
Alors, les Dames Drapeau, leur pouvoir détonne à une époque marquée par la montée du patriarcat juridique. Mm-hmm. Au 19e siècle, les Dames Drapeau ont exercé les pleins pouvoirs sur le plus grand ensemble seigneurial laïque du Canada. L'historien Raphaël Bergeron-Gauthier a consacré sa thèse à la trajectoire étonnante de ces femmes d'influence, dont la fortune égalait celle de la famille Molson.
C'est les Dames Drapeau, c'est leur nom de famille? Ou
oui,
ils ont surnommé comme ça? OK, OK.
Les Dames Drapeau, oui, oui.
Je pensais que c'était un nom qu'on leur avait
bonne
donné.
Bonne question, Daniel.
Responsabilité quelconque.
Les Dames Drapeau ne correspondent pas au profil du seigneur campagnard tenant feu et lieu au milieu de ses censitaires, du peuple.
Tenant feu et lieu?
Hein?
Tenant feu et lieu,
c'est une expression, feu et lieu.
Que j'utilise régulièrement.
Oui, en vieux français.
Moi aussi, ça paraît d'ailleurs.
C'était des seigneuresses urbaines, explique M. Bergeron-Gauthier. Leur réseau de sociabilité était composé d'importants juges de paix et d'autres seigneurs qui essayaient de reproduire les codes de l'aristocratie française d'Ancien Régime. Jusqu'à l'abolition du système seigneurial au Canada en 1854, des femmes pouvaient devenir seigneuresses par héritage, en l'absence de descendance masculine, évidemment. La gouvernance de leur fief était toutefois transitoire, ce qui distingue ces seigneuresses des Dames Drapeau, dont le règne s'était tiré sur deux générations par un concours de circonstances. La sororie Drapeau. La dynastie féminine des Drapeau débute par Marie-Geneviève Noël. En 1810, la veuve de 44 ans hérite des 13 seigneuries de son mari, Joseph Drapeau, un entrepreneur dynamique qui, au moment de sa mort, venait tout juste d'être élu au Parlement du Bas-Canada, Parlement du Québec.
Beau petit lopin.
Oui. Marie-Geneviève administre le patrimoine familial jusqu'à son propre décès en 1829. Ses fiefs passent alors à ses 6 filles âgées de 30 à 41 ans. En vertu de la coutume de Paris, les seigneuries Drapeau sont transmises en bloc à la sororie. Il en était autrement en présence d'un héritier mâle, explique Raphaël Bergeron-Gauthier. S'il y a un fils et 7 filles, par exemple, c'est le fils qui rafle tout. Mais s'il n'y a que des filles, on a un partage égalitaire, égalitaire, sans droit d'aînesse. Donc, l'aînée des filles, elle est considérée comme les autres, là, par égal. L'empire foncier légué aux Dames Drapeau s'étend notamment sur la prospère île d'Orléans, Rimouski, Trois-Rivières et les Éboulements, dans Charlevoix. Son administration est assurée par l'une des sœurs, Luce Gertrude. Sa gestion du patrimoine était pragmatique et sévère, constate le docteur en histoire, en parlant de cette femme à la pointe de fer. Le pouvoir exercé par les Dames Drapeau détonne à une époque marquée par la montée du patriarcat juridique, découlant de la mise en place de la liberté testamentaire en 1774. Il s'agit de l'une des conséquences méconnues de la conquête britannique du Canada. Les femmes avaient davantage de droits sous le régime français, car il y avait des mécanismes pour protéger leurs intérêts, explique le chercheur. On a observé une augmentation considérable des inégalités de genre dans la transmission patrimoniale après l'introduction de la liberté testamentaire britannique. En 1970, les Dames Drapeau ont été immortalisées dans le roman Kamouraska d'Anne Hébert, qui dépeint les petites seigneuresses sous les habits étouffants d'une époque austère. Le récit est inspiré d'un meurtre spectaculaire qui a porté ombrage à cette famille respectable.
Un fait divers, une vraie histoire.
Ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Oui. Ce fait divers concerne Éléonore d'Estimoville, la fille de l'une des dames drapeaux. En 1839, la jeune femme de 23 ans est soupçonnée d'avoir comploté pour assassiner son époux violent, Achille Taché, seigneur de Kamouraska. Sa culpabilité ne fait pas de doute aux yeux de Raphaël Bergeron-Gautier. Elle l'a fait tuer, lance-t-il spontanément, en évoquant le témoignage incriminant de sa servante. L'assassin n'est nul autre que l'amant d'Éléonore, George Holmes, qui s'enfuit aux États-Unis au terme de sa virée sanglante en carriole. Demeurée au pays, la veuve noire échappe à la justice grâce à l'intervention de sa mère et de ses tantes. L'appareil judiciaire a souvent été utilisé par la famille Drapeau pour asseoir son pouvoir, explique leur biographe. Des procès, elles en ont eu beaucoup. Le lustre familial est tout de même égratigné. Luce Gertrude parle d'un grand déshonneur dans l'une de ses lettres. L'abolition du régime seigneurial en 1854 est un autre coup dur pour les Drapeaux. Elles ont perdu leurs privilèges honorifiques, comme le banc à l'église, résume Raphaël Bergeron-Gautier. Le choc de l'abolition est atténué par les indemnités généreuses offertes par le gouvernement. Les anciens seigneurs ont également pu conserver les terres non concédées à leur fief et l'essentiel des rentes que les habitants ont continué de leur payer à titre de locataires des censives qu'ils ne pouvaient racheter faute de capital. Le rapport seigneur-censitaire a persisté jusqu'en 1940, rappelle le chercheur. La conjoncture a fait que cette famille a disparu du paysage par la suite. La mémoire de la dynastie féminine des Drapeaux s'est dissoute graduellement avec l'invisibilisation de leur nom à travers leur descendance au tournant du 20e siècle.
Alors, elle n'avait pas rapport avec le maire Jean Drapeau.
C'est ce que je cherchais à gagner aussi.
Ouais,
pas.
Oh non! La conjoncture a fait que cette famille a disparu du paysage, constate l'historien. Raphaël Bergeron-Gautier a constitué un corpus de 630 fiches d'individus réparties sur 5 générations pour étudier l'ascension sociale de la famille Drapeau, de leur milieu agricole d'origine à la haute bourgeoisie du Bas-Canada. Ce travail de moine a été réalisé à la mitaine. Et je suis probablement l'un des derniers qui vont avoir eu à faire ça, s'exclame le chercheur en évoquant les balbutiements de l'intelligence artificielle. Parce que le post-doctorant expérimente justement le potentiel de l'IA à l'Université du Québec à Rimouski dans le cadre du projet Nouvelle-France numérique qui consiste à retranscrire les pattes de mouche des notaires du Québec anciens à l'aide du logiciel Thanksgiving. On entraîne d'abord la machine à reconnaître la calligraphie, puis on corrige, résume Raphaël Bergeron-Gautier. La révolution en cours donne le vertige. Une fois formée à la main d'un notaire, la machine pourra transcrire son greffe au complet. En quatre ans, j'ai transcrit 10 000 plages pour ma thèse. Avec l'IA, on pourrait en faire 12 000 en 6 mois.
Wow. Ah, l'IA est partout, wow. Même en Nouvelle-France. Ouais. Les Dames Drapeaux, une dynastie de seigneuresses par Dave Noël, c'était dans le devoir du 7 janvier, tenir feu et lieu, une expression québécoise historique du régime seigneurial en Nouvelle-France. Je vous dis plus au retour.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Alors, toujours bien qu'on parlait de l'IA avec vous, Serge. Tenir feu et lieu, c'est l'IA qui me dit que c'est une expression québécoise historique du régime seigneurial en Nouvelle-France, signifiant l'obligation pour un censitaire, un colon ou un seigneur d'établir une habitation, d'y résider, de la mettre en valeur et d'y observer des règles sous peine de perdre la terre.
Ça, tenir feu et lieu.
Oui, occupez-vous de votre foyer.
Un foyer,
C'est cela.